Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On la voyait perdre beaucoup de temps devant son miroir. Elle était uniquement occupée à retoucher sa coiffure, à placer ses rubans, à ranger son écharpe. Alors, satisfaite d'elle-même, elle disait à son portrait qu'elle voyait dans le miroir « Mademoiselle Rosette n'était pas bien ajustée ?» Sa barbe noire et bien fournie aurait pu découvrir l'homme recelé sous l'habit d'une femme, mais Mademoiselle Rosette avait soin de s'écorcher le bas du visage en se servant tantôt d'une pincette, tantôt de la pierre ponce. Enfin, pour réparer les défauts de sa gorge plate, elle se formait un gros sein avec des étoupes et pour rendre sa taille plus droite et plus fine, elle portait un corset avec des lames de fer au lieu de baleines. Tout cela fut découvert et on ne douta plus que Mademoiselle Rosette fut un homme en démence. Ce récit, daté du milieu du XVIIIe siècle, constitue peut-être la plus ancienne biographie connue d'un transgenre. Il est tiré, chose surprenante, d'un recueil de grandes affaires judiciaires publié en 1741. Cet ouvrage, écrit par un certain François Gaillot de Pitaval et intitulé « Causes célèbres », connut à l'époque de sa sortie, au XVIIIe siècle, un immense succès. L'une des affaires consignées dans le livre, celle qui nous intéresse aujourd'hui, compte l'histoire de la querelle judiciaire dont fit l'objet la succession d'un gentilhomme, Pierre-Aimant Dumoret, né en 1678 et mort le 18 octobre 1725. Gentilhomme dont le testament fut annulé pour cause de démence, car toute sa vie durant, Pierre-Aimant Dumoret, alias Mademoiselle Rosette, s'est revendiqué femme et s'est habillé en femme. Ce récit, au titre évocateur de testament cassé d'un homme qui croyait être fille, s'avère un témoignage extrêmement précieux, non pas sur le plan judiciaire, mais parce qu'il nous donne un aperçu de ce à quoi pouvait bien ressembler au XVIIe siècle la vie d'une personne qui s'affirmait d'une identité différente de celle qu'on lui avait attribuée à la naissance. Au travers, et malgré les nombreux préjugés qui imprègnent le texte, écrit près de deux décennies après la mort de Mademoiselle Rosette, ce sont les grandes lignes d'un destin à la fois hors du commun et tragique qui se dessinent. Pierre-Aimant Dumoret naît à Bagnères, dans le Bigorre, en 1678. Il, attention, je dis il pour l'instant, car c'est ainsi qu'il est identifié à la naissance, est issu d'une famille très respectable. Son père, maître Dumoret, est avocat au Parlement de Toulouse et juge de plusieurs terres dans le voisinage de Bagnères. On devine que sa mère, désignée comme demoiselle de Manas, est également de bonne condition. Dès son plus jeune âge, Pierre-Aimant se montre persuadé qu'il est une fille. Elle donc, et non plus il, n'en démord pas. Ni les remontrances de son père, ni les moqueries de ses camarades de classe n'ébranlent sa conviction intime d'appartenir à l'autre sexe. Pour la soigner de ce qu'il pense être la manifestation d'une forme de démence, ses parents la gardent sous étroite surveillance. À la mort de sa mère toutefois, et comme son père est un homme fort occupé, elle se retrouve davantage libre de ses mouvements. Ainsi en profite-t-elle pour donner libre cours à l'expression de son identité véritable. Dans les rues de Bagnères, je cite, « on la voit souvent paraître en habit de fille ». Inquiet de ce comportement, sa famille décide de l'envoyer à Toulouse, car on croit qu'une grande ville pourrait dissiper cette manie. Elle y étudie le droit et la théologie. En public, elle s'habille encore comme un homme, mais ne se mêle pas beaucoup aux autres. Elle vit dans une sorte de retraite qui, selon l'auteur, n'a pour seul objectif que de faire croire aux incrédules qu'elle est véritablement une fille. En privé, en revanche, elle s'habille en femme, enfin, elle essaye, car son père, conscient de ce qu'elle fait de son argent, ne lui en envoie pas suffisamment. Alors, semble-t-il, elle n'hésite pas à rogner sur sa pension pour s'acheter des vêtements de femme, quitte à ne pas manger. Pour pallier cette situation, elle trouve quelque temps un emploi de précepteur, mais aperçue, vêtue en habit de femme au travers de sa fenêtre, elle en est renvoyée. C'est suite à ce renvoi, puis à une violente dispute avec son père, qu'elle commence à s'habiller uniquement en femme, et à se présenter sous le nom de Mademoiselle Rosette. À Toulouse, sa réputation fait vite le tour de la ville et sa vie n'en devient que plus difficile. Dans la rue, les enfants se moquent d'elle sur son passage. Alors, pour échapper à cette situation, Mademoiselle Rosette part quelque temps en voyage. De retour un jour à Bagnères, elle apprend le décès de son père. Décès qui lui donne droit, malgré la tentative de son frère aîné de l'en priver, à la moitié de la fortune paternelle. Désormais à l'abri du besoin, elle reste quelque temps dans sa ville natale où elle vit ouvertement comme une femme, essuyant les moqueries et les remarques désobligeantes avec courage. Quand d'aventure on lui fait remarquer que sa barbe et son air démentent son identité de femme, elle répond qu'on ne doit pas s'arrêter aux traits de son visage, que comme la nature se plaît quelquefois à donner aux fleurs des figures bizarres qui ne conviennent pas à leur espèce, elle avait pu de même lui donner un visage mâle. Mademoiselle Rosette vécut ainsi jusqu'en 1725, année de sa mort à l'âge de 47 ans. La cause du décès, semble-t-il, fut un appareil dont elle se servait pour masquer son sexe et qui, quelques mois avant sa mort, lui avait déjà causé de défaillir en public. Un malaise qui fut l'occasion d'une bien cruelle manœuvre, jugez-vous-même. Dumoret, habillé en fille, tomba en défaillance vers la fin du mois de mai 1725. On y accourut en foule. Le sieur Daffon, chirurgien, proposa de profiter de ce moment pour savoir si Dumoret était homme ou femme. On approuva la proposition et la vérification fut faite en présence d'un grand nombre de personnes. Quel ne fut pas l'étonnement des spectateurs lorsqu'ils virent l'homme dans son appareil, cruellement enchaîné à travers d'un amas de peaux étrangères, artistiquement arrangées. Malgré cet épisode et la souffrance que devait, on l'imagine, lui causer ce dispositif castrateur, Mademoiselle Rosette continua de le porter jusqu'à sa mort au mois d'octobre suivant. Mais pas avant d'avoir été l'objet, selon François Gaillot, d'un odieux complot visant à profiter de ses derniers jours pour lui faire signer un testament frauduleux au profit des pauvres de l'hôpital de Bagnères. La fameuse querelle judiciaire qui s'en suivit et qui donna raison à sa famille est la raison pour laquelle, par miracle, l'histoire de Mademoiselle Rosette, transgenre du XVIIe siècle, est parvenue jusqu'à nous.